Romenant, directeur du département d'histoire. Tout le monde connaît, donc je ne vous présente pas. Donc, c'est l'amitié de présenter ses recherches.
Donc, moi, j'ai rassemblé ce dossier que vous avez perdu, parce que je ne vais pas raconter, je reprends pas tout.
Il y en a des exemplaires qu'on a fait circuler en plus pour ceux qui ne
l'ont pas vu. C'était justement de partager la présentation en voyant aux commentaires que j'ai faits. Alors, en grandissant, je me suis aperçu que les commentaires, je les ai faits exprès pour la séance et. Je suis allé un peu vite par moment, et donc il y a deux grosses erreurs. Hein. Je voulais attendre pour voir si quelqu'un s'aperçoit. Enfin bon, je ne voulais pas les voir. Peut-être quelqu'un a vu les deux numéros de grosses erreurs.
Peut-être qu'on est à une troisième.
Personne n'a vu le monde. On va donner du mal à faire des commentaires. Ah bon, c'est pas du tout. Non, le premier document, le commentaire, c'est 20 sous et pas 20 deniers, parce que ça ne peut pas faire. Dans chaque texte, c'est une introduction. C'est un commentaire.
Oui, dans l'intro,
à la
c'est
ligne 4, sous, ça va ça prendre. Va. À la ligne 4, c'est 20 sous, parce que autrement.
Ça va comme erreur. On avait quand même
On avait rectifié.
On avait rectifié.
Avec l'introduction, ça dit bien 20 sous.
On avait rectifié. Et puis, là, je veux dire que c'est dans le document 5. Hein. Là, il y a un chiffre qui est sauté. Et en fait, au tout début, le premier chiffre du commentaire, c'est 24 sous. Hein, 10% sur l'intérêt annuel pour en fait 12 livres, ça fait 24 sous et pas 2 sous. Hein, évidemment. Alors, j'ai choisi des documents qui illustre le crédit rural, ou plutôt le presque toujours le crédit entre ville et campagne, puisque c'est ça qui est caractéristique de cette région à cette époque. Donc la région, c'est de Lombardie, et l'époque, c'est l'époque des communes, 11e, 13e, et donc c'est essentiellement tiré des devis, des archives, des devis que j'ai étudié en gros quand je faisais l'âge de François de Roussel, je le crédit. Et donc ces documents-là, il y en a des milliers de ces chartes de crédit, et il faudrait tout de suite que c'est un exemple local, mais en fait, on pourrait le transposer avec mutatis mutandis à d'autres régions d'Italie du centre-nord. On trouverait le même type de documentation. Donc l'idée, c'est d'abord de nous faire un petit florilège de la documentation italienne médiévale sur le crédit rural. Donc on trouve vraiment en énorme quantité à partir de cette à peu près du premier document. C'est-à-dire les premiers, ça commence vraiment de façon très nette. Dans les années 1070, on a quelques paquets de chartes. Donc au début, c'était toujours des actes notariés. Presque toujours là-bas. L'immense majorité des actes notariés. Donc au début, c'était des originaux, hein, des petits morceaux de parchemin, c'est minuscule, hein, c'est grand comme ça. Et quand on annule la créance, soit on détruit l'acte, soit on lacère le document. Là, tous ceux qu'on trouve sont à la série, évidemment, parce que tous n'ont pas été remboursés. Et puis, à partir du milieu du XIIIe siècle, c'est des registres de minutes, c'est-à-dire des bouillons que. Des résumés que faisaient les notaires des actes, hein, qui avaient valeur légale. Hein. Donc j'en ai donné qu'un exemple, c'est le numéro 5. Hein. Et donc les quatre premières, en revanche, typiquement des documents que j'en trouve. Et donc mon but, je m'aperçois en regardant Donc une parenthèse, parce que tout le monde n'a peut-être pas compris le rapport entre la personne qui est assise là-bas, le livre qui est ici, et ce qui est écrit au tableau.
Et la séance de la
prochaine fois. Que c'était intéressant de faire cette annonce. Donc Julie présentera son livre, dans les jeux du roi, précisément pour être préparée à la fin du Moyen-Âge. Donc samedi soir, c'est à l'étage en dessous, donc jeudi à 17h30. Donc, en regardant les personnes qui sont ici, je m'aperçois qu'en fait, ça fait 10 ans que je travaille sur ces choses-là, et en fait, je travaille plus beaucoup ces dernières années, donc je vais dire un peu. Il me semble qu'il y a presque 10 ans, j'ai parlé de crédit au séminaire de Florence, dans une version qui était très économique, car le lien social n'était pas encore bien intégré, me semble-t-il. À ça, et encore moins cette réflexion sur l'absence sur le crédit verbal, hein, qui est au fond ce qui me préoccupe le plus les dernières années que j'ai travaillé là-dessus. Donc l'idée du dossier, c'est une fois montré les différents types de prêts, donc je ne reviens pas, mais on pourra discuter, hein, peut-être des questions. Montrer les mécanismes du crédit qui sont toujours les mêmes, à des milliers d'exemplaires, c'est-à-dire c'est un paysan qui a des difficultés, qui met sa terre en gage, et puis qui finit par la faire saisir d'une façon ou d'une autre par le citadin qui lui a coupé, qui lui a prêté l'argent. Donc ça, c'est vraiment donc le dossier en particulier, le dossier, la série de documents sur les emprunts par les membres d'une communauté rurale qui sont vendus entre citadins et qui finissent entre les mains du plus gros propriétaire du village qui est le chef de cathédrale. C'est pour ça qu'on est là, parce que ces archives sont bien magnifiquement classées, et qui finit par récupérer le canal d'irrigation dont le creusement avait suscité l'emprunt, est vraiment typique, hein, exemplaire de ça. Donc ça a beaucoup marqué l'historiographie, hein, cette dépossession de la paysannerie. Et puis d'autre part, le but de choix des documents, c'est aussi pour s'interroger sur en somme, la mémoire du crédit. C'est-à-dire, ma question ces dernières années, c'est le document type sur le crédit, c'est l'acte notarié. Et en fait, je dois dire que pour beaucoup de mes collègues, mes amis, hein, on sait presque tout sur le crédit. Les documents de notaire nous disent presque tout, on ne doit pas laisser échapper grand-chose. Et moi, je me demande, je suis même presque sûr que, le crédit verbal, celui que certains documents appellent sine carta, joue un rôle très important, et donc on trouve un peu les deux types de crédit que présentait François, hein, c'est-à-dire ce crédit informel, reposant sur la réputation entre parents, entre voisins, et puis au contraire ce crédit presque hostile, hein, et lui qui plus il est formalisé, plus moins il y a de relations personnelles et plus c'est un crédit hostile. Donc le type extrême, c'est ces investissements dans le crédit. Donc on achète des créances, hein, hein, dans le numéro 7, hein, un citadin moyen de la fin du XIIIe siècle qui investit en achetant une créance sur un habitant d'une ville voisine que sans doute il ne connaît pas du tout. Et donc les seuls moyens de connaître la place de ces différents crédits, c'est des documents qui ne sont pas les documents notariés, bien sûr, hein, puisque le crédit verbal n'avait pas jamais chez le notaire, c'est soit des inventaires après décès, soit de très rares déclarations fiscales. Donc en Italie, on commence à avoir des déclarations fiscales à peu près à la même époque, hein, les premières sont du milieu du XIIe siècle, donc ça se multiplie à la fin du début du XIIIe, et dans les premières déclarations fiscales, on peut déclarer des créances sans document écrit. Donc, après, ça disparaît, c'est trop facile, sans doute. Et donc, on a des listes de créances. Donc, le numéro 1 qui n'est pas vraiment. Là, c'est caractéristique, quand même, où on voit toutes ces créances. Et donc j'ai donné trois inventaires après décès où on voit qui illustrent parmi quelques dizaines, un type de documents très très fréquents, enfin quand même pas mal. Et donc cela illustre particulièrement bien ces différents niveaux, ces différents réseaux de crédit avec, me semble-t-il, des types de documentation différents depuis le marché, donc l'investissement sur une table de crédit, enfin, vous les avez lues, hein, jusque au principe qui ferait donc seule la mémoire ou le livre personnel, quelquefois, qu'on n'a pas gardé non plus ce souvenir. Et puis, donc, la dernière chose que je voudrais dire, donc, c'est que tous ces travaux, en fait, se placer dans un programme de recherche sur le crédit dans l'Europe méditerranéenne médiévale, donc qui a duré de 1996 à 2003, et pour lequel on a fait beaucoup de colloques, et on s'est arrêté à étudier. Il est assez peu connu, donc les seuls on a fait des colloques. Donc c'était issu de des journées de Flandre de 95, il me semble, sur le crédit rural en Europe moderne. C'est là qu'on s'était rencontré tout un groupe de groupe. Hein. Et donc les deux volumes qui ont été publiés, c'est Notaires et crédits dans l'accident médiéval, donc, que j'ai publié avec Guy Breton, hein, qui est décédé l'an dernier. Et donc il tourne autour de problématiques que j'expose ici. On a essayé de faire à la fois de présenter donc un ensemble de villes d'Occident et un petit peu on a fait le titre et après en fait les Espagnols n'ont presque aucun Espagnol n'a publié, donc en fait c'est Italie et France du Sud, hein, donc j'ai changé le titre. C'est un peu la problématique, une partie de cette problématique, c'est-à-dire on a voulu que nos collègues présentent la documentation notariale, donnent des exemples et montrent la place du crédit. Donc c'est assez systématique, hein, puis il y a des petits intermédiaires de texte. Et puis l'autre extrémité de la chaîne de ces réflexions sur le crédit médiéval, celui-là s'appelle Crédit et usure entre théologie, droit et administration, langage confronté. Donc vous voyez que c'est tout à fait autre chose. Et en fait, c'est les deux pôles de ce programme de recherche. Donc celui-là a été animé par Giacomo Todeschini, que vous avez tous entendu son nom, hein, spécialiste de la théologie du crédit au Moyen-Âge. Et donc, en fait, c'était les deux pôles de la réflexion, c'était ce crédit, cette pratique concrète du crédit, donc que moi j'ai étudié, hein, dans les documents, et puis, pendant ce temps-là, la réflexion et la réglementation du crédit qui se développait, en particulier sous l'influence de l'Église, mais avec toute cette complexité qu'on sait maintenant grâce aux travaux sur les franciscains. Hein, et donc... Et en fait, je crois que si la recherche finit un petit peu, pas vraiment aboutie, hein, comme on aurait voulu, c'est qu'on n'a jamais réussi à nouer les deux. C'était vraiment trop difficile. Donc, alors, on espère encore publier au moins le dernier colloque qui a été crédit et marché. Donc, on va essayer de faire la synthèse de ça. Et celui-là, il n'y a que 4 ans qu'on a fait, après tout, on a encore une chance. Voilà. Puis je voudrais dire aussi que donc ça a donné ces travaux se sont donné lieu sur un peu des travaux individuels, hein. En particulier il faut citer ceux de Jean-Louis Gaulin, donc le premier article que j'ai fait avec Jean-Louis, et donc il a travaillé sur des choses très variées de celles de François de Roupsel, mais à Bologne au XIIIe siècle, c'est-à-dire l'inscription des crédits avec une institution qui ressemble beaucoup à la bibliothèque des baquets qui s'appelle les registres de bannissement pour dette, hein, et qui sont faits pour connaître pour savoir qui sont les créditeurs insolvables dans la ville, donc des milliers de registres. C'est le sujet de l'habilitation de Gaulin, hein, qui est encore inédite, mais si je peux me permettre une suggestion, ça serait bien d'inviter Gaulin, une fois je suis sûr que ça vous intéresserait un petit peu de parler de ça. Et puis l'autre série de travaux que j'ai cités, qui était dans ce cadre collectif, c'était le centre, vous savez qu'à Asli, il y a un centre sous Lombard Crédito, qui est donc un centre d'études sur le crédit médiéval, hein, un peu moderne, et donc qui organise toutes sortes de choses, qui a publié aussi quelques volumes sur différents aspects du crédit, pas seulement les Lombards, hein, toutes sortes de choses. On peut citer ces choses-là.
Merci beaucoup. Donc on va faire une première partie de la discussion autour de à la fois des deux textes et puis des deux présentations. Donc,
Je veux bien commencer sur, sur les deux d'ailleurs. Quand vous avez fait, François de Rouxelles, quand vous avez fait votre présentation, vous avez dit on peut prêter à n'importe qui, une fois qu'on a institué ce banc, car ce n'est plus fondé sur l'interconnaissance personnelle. Et effectivement, tout votre texte est axé autour de cet argument central qui est que l'information est capitale et que plus on a d'informations et plus on acquiert, etc. Mais moi, je dirais qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi les capacités et qui entrent en jeu et qui se disent entre autres choses dans les statuts sociaux, dans la capacité de faire. Et comme vous traitez des femmes, j'aimerais bien savoir quel est le statut social des femmes, le statut social des femmes aussi dans le cycle de vie, parce que, d'une certaine manière, vous tirez trop vers le contemporain, je dirais, vers une société où tout le monde est égaux. Et je ne connais pas la société égyptienne de l'époque, mais c'est clair pour la société médiévale ou moderne, cette donnée est absolument essentielle pour comprendre comment fonctionne le...
C'est difficile à savoir, parce que la plupart des gens qu'on voit dans les contrats sont isolés. Donc sur la position sociale de ces gens-là, c'est extrêmement difficile à...
Et le statut juridique des femmes.
Ça dépend, parce qu'il y a des femmes qui vivent selon le droit romain, il y a des femmes qui vivent selon le droit grec...
Regardez tout ça.
Et le droit égyptien est assez favorable. Parce que le mariage donne pas mal de droits, notamment sur les biens du mari.